Bienvenue sur la chaîne podcast de Dev To Be Curious, la chaîne des développeurs et des développeuses qui sont et qui restent curieux, curieuses. Bienvenue à vous, les curieux, curieuses. On va parler d'un événement majeur, majeur aussi pour moi, passionné du framework .NET. Ça fait depuis 15-20 ans que je les suis maintenant. Et ça y est, on est en train de tourner une grande page de .NET avec .NET Core 3 qui va arriver la semaine prochaine. Extraordinaire changement, extraordinaire bienvenue. Déjà que l'amorce .NET Core est quelque chose d'extraordinaire au sens qu'on est passé d'un framework très fermé, très Windowsien, à un framework ouvert, open source, GitHub, si on peut dire. Oh, ça fait bizarre comme ça. On va plutôt dire sur GitHub. Hein. Bref, accessible, avec une release plan qui s'accélère en plus, mais en tout cas qui est bien suivie, et une contribution importante de plusieurs développeurs et développeuses, c'est extraordinaire. On va faire un tour rapide de tout ce qu'il y a de nouveautés sur .NET Core, et déjà, la première chose qu'on peut noter, c'est que c'est l'arrivée de WPF et de Windows Form dans .NET Core 3.0. C'est amazing. Pour moi, c'est vraiment la grande nouveauté. Ah, il y en a plein d'autres, hein. Mais celle-là, c'est extraordinaire, à savoir qu'en fait, plus besoin de se dire « Bon, je vais rester sur .NET Framework 4.8 pour faire du WPF. Je vais rester, en fait, sur mon .NET Core 3.0. » Et là, on arrive à la grande réflexion qui va se passer et le grand futur de .NET Core, c'est-à-dire qu'il va arriver à .NET Core 5 l'année prochaine. En fait, il s'appellera .NET 5. Ah oui, tiens, d'ailleurs, pourquoi pas .NET 4, puisqu'après 3, c'est 4. Windows, c'est toujours pas compté, mais ils ont toujours des explications pour ça. Là, cette explication, c'est pour éviter la confusion avec le .NET Framework 4.8, donc le 4 ferait penser, en fait, au framework .NET Framework spécial Windows. Donc, on va éviter cette confusion, et c'est pour ça qu'on passe tout de suite à .NET 5, et après .NET 6 l'année d'après, etc. Une release plan qui est assez osée, hein, et un rythme assez costaud, on va voir si la tienne, mais en tout cas, ça nous laisse déjà 2 à 3 ans sur un bel avenir de .NET, à voir comment ils avancent. Allez, on va lister ensemble, donc après WPF, vous ferez un .NET New, hein, WPF .NET New WinForms, pour réussir à créer un projet de type Windows. Un autre point que j'ai noté, moi, qui est très intéressant, si on veut améliorer les performances au moment du démarrage, on le retrouve un peu dans Angular, c'est ce principe de JIT et AOT. Vous savez, le Just-in-Time et le Ahead of Time. Et cette idée, en fait, c'est de pouvoir améliorer tout ça. Donc, c'est le Ready to Run Image. Cette idée, en fait, c'est de réduire toute la consommation au démarrage. Et on va pouvoir l'activer grâce à une option dans le CSproj, puisque vous savez que maintenant, quand on double-clique sur le CSproj, avant, ça nous ouvrait le projet et les propriétés. Maintenant, en fait, ça nous l'ouvre, mais en fichier XML. Et vous rajouterez la propriété Publish Ready to Run. Vous le mettrez à trou et tout sera OK. Et ça vous permettra de gérer ça. Pour moi, c'est une étape très importante là-dessus. Et bien sûr, c'est le support du C-Sharp 8, oui, mais dans son entier support. Entier support, parce qu'en fait, la 4.8... .NET Framework 4.8, qui sera d'ailleurs la dernière release du côté framework, ne supportera pas totalement .NET C-Sharp 8. Bon, il faudra attendre la 3.1, je pense, pour qu'on ait vraiment tout le support complet de la 8, parce qu'il y a pas mal de choses. Je vous invite d'ailleurs à aller voir un article qui a été réalisé sur Dev2BeCurious là-dessus, où on liste un peu toutes les fonctionnalités. Il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas encore prêtes. Hein. Donc, on va attendre que ça arrive. Autre point à noter, c'est un support du JSON qui a été amélioré. Alors, vous connaissez sans doute JSON.net, et il y en a d'autres, hein, librairie JSON. Là, ici, ça restera toujours un bon choix, mais ils l'ont exporté, et donc, du coup, ça sera vraiment une librairie externe. Et en fait, ils ont construit une nouvelle librairie, un autre support, en fait, qui, soi-disant, a une meilleure performance. D'ailleurs, chez Dev2BeCurious, on essaiera prochainement d'aller regarder un peu les performances, le benchmark là-dessus, quitte à en faire. Mais en tout cas, ils nous annoncent dans system.txt.json toute cette partie-là. Et ça aussi, ça va être intéressant de voir si vraiment on réussit à améliorer tout ça, à regarder de plus près quand ça va sortir. Dans la continuité, on trouvera le system.txt.json JSON document qui est construit avec le JSON Reader. Ce JSON document est annoncé à avoir des performances de 2 à 3 fois plus, 2 à 3 fois plus vite que JSON.NET. Donc à voir, à tester. L'idée, c'est de pouvoir parser un document et de le voir comme un DOM, en fait, un peu comme du côté JavaScript avec le JSON parse. Et on va pouvoir requêter dessus, on va pouvoir énumérer, regarder toutes les propriétés. Et ça va être très intéressant à regarder, à suivre aussi de plus près, surtout que le JSON s'oriente vraiment beaucoup dans l'utilisation aujourd'hui. Donc à voir. Il y a le JSON Serializer aussi qui a été amélioré, évidemment, et le deserializer, puisque on est dans ce même principe. Ils ont amélioré aussi tout ce qui est interop, hein, et le support intégré, si on change un peu après le JSON, tout le support intégré de HTTP2, puisque vous savez que HTTP est en train de s'améliorer en passant à la deuxième version. Ce protocole HTTP2 va changer, c'est plus du texte hein, dans les échanges par exemple, c'est du binaire. Donc, ce sera un peu plus complexe de regarder et d'inspecter, mais c'est aussi une amélioration de performance, parce qu'en fait, on va pouvoir avoir des pipes en fait, de communication où on va pouvoir envoyer plusieurs requêtes en même temps. Ça va pouvoir optimiser aussi le transport. Alors, il faut savoir que c'est un peu natif, mais on pourra aussi le préciser si on utilise un HTTP client en lui précisant la version, et on mettra la version 2.0. Et ça fonctionnera bien. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de cool. Bon, il y en a beaucoup, hein, tout ce qui est cryptographie aussi, ils ont amélioré, ils ont pris en compte le support, un nouveau support qui est AES GCM. Alors pour vous dire, c'est pas quelque chose que nous, chez Dev2BQS, on connaît bien. Donc on va aller regarder ça de plus près, parce qu'on a nous une formation autour de la sécurité et l'idée d'intégrer ce support-là, ça peut être intéressant. On vous en reparlera avec grand plaisir. Aussi, un autre point qui, bon, c'est peu, mais en même temps, c'est super sympa. Si vous faites du développement Raspberry Pi, vous savez, tout ce qui est partie POC ou même projet entier, hein, pour tout ce qui est connecté, objet connecté, il y a un support de deux librairies, deux packages qui sont accessibles, le System Device GPIO et l'IoT Device Binding, qui vont nous servir en fait à communiquer avec le GPIO. Vous savez, c'est toutes ces broches en fait qui permettent de communiquer avec toute la partie électronique. Et ça va être super bien si on veut le mettre en place. Ça va être beaucoup plus facile en fait de faire ces développements avec .NET Core. Donc en fait, on voit bien que .NET Core s'oriente vraiment pour être un framework qui va être vraiment multiplateforme. Pour rappel, hein, il est bien sur Windows, mais il est aussi sur Linux et sur Mac. Ça, c'est extraordinaire aussi. Et c'est quelque chose de très puissant. Et du coup, on va voir ce que ça va donner par la suite sur les prochaines mises à jour. Un autre point qu'on peut noter, c'est le travail qui a été fait en fait sur toute la réalisation, toute la mise en place pour vraiment améliorer les performances. On a des benchmarks vraiment de fou. Si vous en voulez, vous me les demandez. Vous les retrouvez assez facilement sur Internet, des benchmarks où ils comparent rien que en fait la partie .NET Core 1.1, 2.1 et la version 3.0. Et des fois, mais c'est impressionnant ce qu'on peut avoir. Un exemple, toute la partie transformation de points, graphique.transformPoints. Si on voit la version 2.1 de .NET Core, on était dans un algo qu'ils avaient mis en place de simple transformation, on était à 11 000 nanosecondes, et là on est à 364 nanosecondes, vous imaginez? C'est 4 fois moins. 4 fois moins. C'est impressionnant. Tout le système d'erreur aussi, de gestion d'erreur, on était à 490 nanosecondes, là on est à 6 nanosecondes. C'est ce genre de choses qui sont extraordinaires de voir qu'il y a vraiment d'énormes performances, d'amélioration de performance sur .NET Core 3 et ça donne très envie aussi pour réussir à être encore plus convaincant face à sa direction par exemple ou face à un client de choisir .NET Core 3.0. Il y a des réflexions aussi sur .NET Core, à savoir que .NET Core aujourd'hui arrive comme le troisième serveur web, j'entends pardon, ASP.NET Core arrive comme le troisième serveur le plus rapide répondant à plus de 7 millions de requêtes HTTP. On est vraiment sur un niveau extraordinaire sur ASP.NET Core, même sur certains ASP.NET Core bat à plate couture, par exemple sur les réponses plain text, par exemple. Pareil, je pourrais vous envoyer les liens, Bon, après, c'est toujours critiquable, un hein, benchmark. Hein. Mais il y a quand même un énorme travail qui a été fait sur cette partie-là. Et ça, bravo l'équipe et bravo à toutes les personnes qui ont travaillé sur .NET Core 3.0. Ça donne très, très envie. Bon, il y a d'autres points sur .NET Core qu'on pourrait parler. Sur ASP.NET Core, tiens, il y a aussi des améliorations. ASP.NET Core 3.0, utilisant la 3.0, va être vraiment dédié à .NET Core 3.0, on pourra plus avoir de dire tiens je fais de la ASP.NET et je me mets en .NET Core 2.1. C'est vraiment un clivage, une césure entre les anciens ASP.NET Core et celle-ci. Celle-ci est vraiment dédiée à la 3.0. Et donc, ça va être aussi important dans les migrations si on veut partir sur ça. On va devoir faire très attention et préparer la migration. Heureusement, Microsoft aide à ça. Je vous en reparlerai aussi, autant niveau podcast que niveau article sur la chaîne, là, cette fois-ci, sur le blog. Bref, ça donne envie. Et vous savez quoi ? Cette release, c'est la semaine prochaine. Et il y a une conférence qui dure 3 jours .NET, donc la semaine prochaine, du lundi au mercredi. Nous, on n'y sera pas parce qu'on est en formation. Hein. Je donne une formation à ce moment-là. Et les personnes qui me suivent sur Dev2BeCurious sont indisponibles aussi. Mais par contre, on vous fera un compte-rendu tous les soirs d'où on en est, de ce qui a été dit. On va essayer de faire un résumé. Bref, c'est très, très, très exciting, comme disent les Américains et les Anglais. Ça donne très envie et ça y est, pour moi, c'est le vrai grand tournant d'ASP.NET et de .NET Core. On est sur vraiment une version qui va donner envie d'être utilisée. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous, vous l'utilisez ? Est-ce que vous avez envie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que, d'ailleurs, ça peut être quelque chose qui peut nous amener à vous amener à changer, en fait, de gestion de framework, en fait, de gestion même de code, hein, parce que là, il y a l'idée de middleware, par exemple. Bref, ça va être des sujets passionnants. Au plaisir d'échanger avec vous. À très vite sur Dev2BeCurious.